Bonjour. Alors comme ça, il y aurait d'un côté les amateurs de vin et de l'autre les personnes conscientes des enjeux de santé publique. C'est ce que m'inspire le débat récent autour du désormais célèbre Dry January, invention anglo-saxonne, peut-être le problème est-il là d'ailleurs, qui consiste à proposer au public de ne pas boire d'alcool pendant le mois de janvier. Comment ? Un mois entier ? Diantre, quelle idée ! Et notre argent appuierait la communication d'une pareille infamie ? Rassurez-vous, sur ce point comme sur d'autres, les pouvoirs publics ont reculé. Et oui, il est encore difficile de ce côté-ci de la Manche d'entendre que le gouvernement, quel qu'il soit, n'en faisant pas une affaire partisane, puisse limiter un tant soit peu la liberté des producteurs et distributeurs de boissons alcoolisées. La loi Evin, tant honnie en son temps et que d'aucuns persistent encore à rejeter, oui, près de 30 ans après, reste pour beaucoup un véritable traumatisme. Et pourtant, est-ce si impensable de faire une pause dans notre consommation d'alcool ? Proposer un sevrage d'un mois, c'est aussi permettre au public de se rendre compte du nombre invraisemblable de sollicitations auxquelles chacun est confronté et d'offrir une occasion de dire simplement non. S'il vous plaît, pas de dogmatisme, aimons le vin, mais acceptons d'interroger notre consommation d'alcool, ce n'est que mon avis, et j'avoue, apprécier aussi le relais d'une célèbre caviste, la Women Do Wine Sandrine Goyvertz, qui ne se cache pas sur les réseaux, de pratiquer le Dry January et qu'importe précisément qu'elle vive du commerce du vin et de faire vivre à ceux qui la suivent, et ils sont nombreux, toutes les étapes de cette diète. Ainsi, en matière de vin comme d'infrastructures cyclables, la sagesse viendrait-elle parfois de Belgique ? Ce 64e épisode s'intitule « Sidonios réinvente le verre à vin ». Bienvenue dans la Terre à boire. Bonjour Antoine Schwartz.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous, c'est très sympa de penser à nous.
Tu es l'un des deux créateurs, avec ton compère Baptiste Larbre, de la maison Sidonios.
Tout à fait.
Et nous avons le plaisir, lors de cette soirée d'enregistrement, qui comprend aussi l'épisode précédent avec Manuel Perrondet, nous avons la chance de déguster avec des verres Sidonios, et j'avoue que c'est un vrai plaisir. On va parler donc de verre avec toi. Le public est toujours là, voilà. Les gens sont là. Ils ont les joues un peu plus rouges qu'au début. Ils ont l'air d'apprécier leur présence ici. Comme de coutume, je te présente les gens qui sont autour de la table. À ta droite, Laurent Delso, notre caviste passionné.
Bonsoir.
Caviste Wine Therapy, toujours rue de Montholon, dans le 9e à Paris.
Ça ne bouge pas.
Toujours la tradition de faire déguster à l'aveugle 3 vins aux clients.
Oui, j'essaye en tout cas.
Quand ils arrivent et puis ils choisissent. Voilà. Et ils sont parfois surpris de ce qu'ils ont choisi.
C'est mon plaisir.
À ta droite, Laurent, Louise Bouet. Bonjour Louise.
Bonjour.
Ça fait quelques temps qu'on ne t'avait pas eu à ce micro.
Eh oui, je suis enchantée d'être là.
Ouais.
Merci.
Bonne année. J'en
Merci,
profite aussi.
À vous
bonne
aussi.
Année. Hein. Sommelière à La Truffière dans le 5e arrondissement à Paris. Et notre titulaire indétrônable, Patrice Defay. Bonjour.
Sir, yes, sir.
Yes. Ouais, désolé, hein, moi ça m'énerve un peu ces critiques autour du Dry January, je sais pas. Les gens ont du mal quand on...
Bah, écoute, franchement Romain, tu attaques un sujet un petit peu délicat quand tu parles à une sommelière, à un caviste, de leur dire de ne pas travailler tout le mois de janvier, c'est quand même un petit peu...
On n'interdit pas aux gens d'aller chez des cavistes. On souligne éventuellement l'idée que peut-être pendant une certaine période de temps, on pourrait se passer de vin et que ça interroge un petit peu notre rapport à l'alcool. Moi, je trouve que c'est plutôt ça.
Je pense qu'il vaut mieux se poser la question de savoir ce qu'on boit et combien on boit chaque jour plutôt que de...
Et c'est une façon de poser cette question.
Censurer,
ça part sur un débat, c'est
censurer un mois entier.
Non, moi, je suis d'accord pour faire le ramadan. À partir du moment où le vin est une religion, je suis d'accord pour faire le ramadan.
Chacun a le droit d'avoir son avis. Ce que je n'apprécie pas, c'est les dogmatismes, quels qu'ils soient. Antoine, tu n'as rien à voir avec ce débat.
Non, mais je
tu
précise qu'il est assez compliqué pour un vendeur de verre à vin de faire le Dry January, parce que par essence, il est difficile de vendre des verres à vin en buvant de l'eau. Donc, j'ai ce problème moi aussi.
Alors, Sidonios, c'est une maison qui est toute neuve, qui est née. En tout cas, le projet est né en 2017, exactement comme ce podcast. Voilà,
parfait.
Ça nous fait une parenté, exactement comme le wine therapy. Mmh. Ça nous fait une parenté à tous les trois, enfin à tous les cinq, autour de la table. Quel est le point de départ de cette aventure ?
Oh, c'est un point de départ très personnel. Une envie d'entreprendre avec un ami de longue date, avec qui je le connais depuis que j'ai 6 ans, donc Baptiste Larbre, tu l'as cité tout à l'heure. Et puis, au-delà de cette envie d'entreprendre, moi, j'ai été courtier pendant, pendant 4 ans à Bordeaux. Et puis, j'ai dû quitter Bordeaux pour des raisons personnelles, puisque ma femme ne trouvait pas de, de travail à Bordeaux. Et donc, j'ai dû immigrer à Caen.
Oui.
ce qui a été un vrai plaisir, parce que c'est une ville méconnue et c'est vraiment un bel endroit. Il y a des belles caves et des très beaux restaurants. Mais voilà, l'aventure a été créée à Caen, tout simplement parce qu'il y avait cet historique dans le vin, un associé qui avait voulu, qui avait envie d'entreprendre avec moi et en qui j'avais toute confiance, qui est une qualité importante pour un associé, une passion pour le vin, ce qui est, je pense, quand même très important aussi, et une passion pour l'art de la table. Donc voilà, l'envie d'entreprendre, la passion pour le vin, la passion pour l'art de la table m'a mené à, enfin, nous a mené à regarder un peu plus ce qui se passait dans les verres à vin, à faire une analyse de marché un peu basique, comme tout entrepreneur au tout début de son projet. Donc voilà, on a commencé en janvier 2017, face à une feuille de papier, à se demander ce qu'on allait pouvoir faire, et on a créé Sidonius.
Alors, Patrice, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le verre et les verres? Ouais, vaste sujet, hein, mais on a fait un peu de recherche. Hein.
Oui, oui.
Enfin, surtout
le,
Patrice.
Le verre, alors après, on pourrait l'appeler Kilix, Pater, Calis, Anap ou Pau. Le verre n'était pas, non, mais il n'était pas transparent jusque très, très récemment. Le verre le plus connu, je pense que bah, c'est juste le Graal.
Tout simplement.
Alors après, c'est une réalité réelle ou symbolique, hein, selon les croyances de chacun. Mais déjà, il y avait du vin à l'époque. Et ça, ça soulevait déjà les foules pour aller faire à minima des croisades au Moyen-Orient. La bascule du verre s'est faite en Angleterre quand on a su allier la capacité calorique du charbon pour faire fondre le verre à haute température et puis la capacité aux certaines souffleries. Donc c'est Sir Kenelm Digby qui en 1642 a réussi à faire effectivement du verre pour pouvoir en faire ben, des verres à vin et des bouteilles, de, alors à l'époque plus ou moins transparents. Après on parlera de la transparence éventuellement, mais donc voilà, ça date du 17e siècle. Et puis bah, après dans le 17e siècle on avait le verre, les bourgeois buvaient du vin dans du verre de soit de Bohême près de Prague, hein, la Bohème juste pour rappeler c'est en République tchèque, soit du verre de Venise, donc le fameux verre de Murano. Et à l'époque on buvait du verre dans ces
on buvait du vin
dans ces verres là et dans ces calices. Et puis aussi une évolution je pense des verres, parce que encore au début du siècle dans un service à verre il y avait au minimum 6 verres. Hein, le verre à vin, le verre à Porto, le verre à Champagne, je ne sais plus combien d'autres, mais on avait divers. Et aujourd'hui, on est plutôt sur une volonté de faire un ou deux verres universels, le verre à vin et le verre à eau. Donc l'art de la table a aussi évolué vers un peu d'épure et vers un petit peu de simplicité dans le service du vin. Après, l'art de la table, c'est un vaste débat, mais donc le verre, aujourd'hui, bah, il doit disparaître en fait. Il est là pour élever le vin. Il doit être léger, il doit être transparent. Je pense qu'il doit l'élever alors, à la fois au sens physique, hein, c'est pour ça qu'on est sur une jambe, hein, et puis bah, au sens aussi un peu plus théorique, pour bah, que seul le verre apparaisse dans son réceptacle. Donc il doit disparaître au profit de son contenu. Et après, pour le verre, on a effectivement trois grandes parties. On a le contenant, hein, qui est constitué par le buvant, donc la surface, le rond autour en haut, hein, sur lequel on met la bouche. Ensuite, on a les épaules en bas du verre, qui doit être le plus alors, large possible pour favoriser l'oxygénation. Le buvant le plus étroit possible. Alors, avec la bonne proportion, et ça, on en reparlera.
C'est un peu plus technique, oui.
On va venir, c'est de la science, cette histoire.
Pour concentrer les arômes, et puis pour globalement aussi avoir une certaine hauteur, hein, pour avoir à la fois les arômes de tête, les arômes de milieu et les arômes du fond du verre. On pourrait dire qu'il y a trois couches dans le verre, un peu comme un parfum, quelque part. Et donc, on doit concentrer des arômes volatiles dans cet objet, voilà, dans les grandes lignes.
Alors merci beaucoup pour cette présentation. Il y a un message qui est hyper important et qui reprend l'ADN de Sidonius. Alors désolé, je vais faire un peu représentant commercial
c'est le moment.
De tapis,
vas-y.
Mais moi j'en profite. On n'est pas tout le temps invité, donc je me fais plaisir. C'est que on reste que des messagers. L'ADN de Sidonius, c'est vraiment de se mettre derrière la bouteille et d'être un outil pour le vigneron pour faire passer le message de son terroir. Voilà, nous c'est aussi simple que ça. C'est aussi pour ça qu'on a un design très discret, très léger, équilibré. Alors on reviendra peut-être sur la partie scientifique, mais pour nous, cette notion de messager, de respect du travail du vigneron, voilà, nous, on n'est vraiment qu'un support pour les vignerons et on a un respect pour les vignerons. Et ce côté messager est très important, comme vous l'avez cité.
Le marché du verre de sommellerie, du verre œnologique, je ne sais pas d'ailleurs quel est le bon terme à employer.
Il y a trois marchés réellement, si on veut vraiment parler de commerce pur. Il y a les propriétés viticoles, les privés et la restauration. Alors après, que ce soit à l'export ou en France.
C'est les trois débouchés.
C'est comme ça que nous, on segmente les choses pour essayer d'analyser comment on va toucher au mieux ces marchés. Et choisir les canaux de distribution pour être connu de la part des potentiels clients.
Est-ce que du coup, le verre sera le même pour les trois marchés différents ?
Alors, c'est une vraie difficulté. Et c'est une vraie difficulté que nous, on a eue dans notre projet entrepreneurial. C'est qu'on a commencé à commercialiser nos verres en mars 2018, donc il y a un an et demi maintenant. Et on a tout de suite performé assez rapidement en propriété viticole. Tout simplement parce que la propriété viticole, quand elle choisit son verre, elle fait quelque chose de très simple, c'est qu'elle prend quatre marques. Bon, bien sûr, il faut la démarcher, c'est très difficile d'aller démarcher, mais quand vous avez les bons agents, vous arrivez à démarcher les propriétés viticoles. Mais elle prend quatre verres, elle sert différents vins, différents millésimes donc de cette propriété, de ce vigneron dans les quatre verres. Elle fait une dégustation comparative avec son équipe et elle choisit le verre qui lui paraît être le meilleur messager de leur travail. On a eu la chance, alors je ne sais pas si c'est la chance ou si c'est le fait qu'on a bien travaillé lors de notre projet scientifique.
Le talent.
Ouais. on n'en est pas encore là, mais j'espère bientôt. De performer, alors je suis désolé d'utiliser ce terme performer, mais ça a été vraiment pour nous quelque chose de très important. Et c'est un peu ce qui nous a fait survivre au début.
Donc d'être sélectionné par des grands domaines tout de
Exactement,
suite.
Exactement, par des grands domaines tout de suite. Parce qu'en fait, quand on est une jeune marque et qu'on n'a pas de crédibilité sur le verre, le marché du verre, c'est un marché qui est hyper saturé. Vous avez une centaine d'offres à tous les prix, à toutes les formes.
Alors, je vais préciser ça. Effectivement, vous arrivez en 2018 sur un marché qui est déjà...
Quelle drôle d'idée, quoi.
Où il y a des poids lourds qui sont installés.
C'est pas spécialement une niche, quoi.
Non, mais clairement, c'était débile. Quand on y pense, on pouvait le dire, hein, y a pas de souci.
On va les citer rapidement. Côté français, on a une filiale de Arc qui s'appelle Chef et Sommelier. On a des Autrichiens qui s'appellent Riedel, qui doivent être le leader mondial du verre de sommellerie. On a Zalto, qui est aussi une marque historique. Des grosses maisons qui fabriquent
Lehmann, si je crois.
En République tchèque ou en Autriche, pour la plupart, il me semble. Donc, vous arrivez sur ce marché, donc il y a un côté un peu fou, bon, admettons, c'est l'entrepreneuriat, mais comment vous dites, on va se démarquer. Comment on fait pour se démarquer quand on arrive dans un univers, un marché qui est déjà bien pris ?
Alors, au tout début du projet, honnêtement, on n'avait pas pour ambition de se démarquer. On s'est dit, on va faire des verres qui vont nous plaire. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, on adore la finesse qui a été apportée par les marques récentes, enfin, néo-récentes. Mais par contre, on n'est pas hyper adepte du côté dégustation. Donc si on apporte à cette finesse une précision, un équilibre et on va dire une certaine humilité dans le message qu'on veut faire passer, alors nous, c'est des verres qu'on va acheter, alors on va être capable de les vendre. Ce qui n'est pas forcément vrai, mais ce qui nous a valu justement ce que je dis, un bon succès en propriété viticole, ce qui nous a ensuite permis d'atteindre les autres marchés, donc la restauration et les particuliers via des détaillants qui avaient vu nos verres dans des propriétés viticoles. On a très vite exporté aussi parce que mine de rien, quand vous vendez des verres à des propriétés viticoles, forcément quand vous vendez des verres à ce niveau de prix, vous êtes sur des propriétés viticoles très respectées, très cher et donc du coup qui attire les yeux des importateurs, et ben ça nous a tout de suite donné du crédit auprès d'importateurs asiatiques notamment, et ce qui nous a permis d'exporter assez rapidement.
Qu'est-ce qui fait la spécificité alors des verres Sidonios, puisque je crois que vous avez commencé avant de mettre quelque chose sur le marché, évidemment vous avez commencé par une phase d'étude assez importante.
Ouais, je vais prendre 2-3 minutes pour l'expliquer. Donc nous, on est très scolaire dans l'approche. On n'est pas des œnologues, on n'est pas des sommeliers, donc on n'a pas la prétention d'avoir la science, en tout cas au départ du projet, sur comment on fait un verre et pourquoi il est précis. On savait ce qu'on voulait faire. Donc on reprend la notion du messager et de vouloir retranscrire le travail du vigneron. Et on savait par quelles étapes on voulait atteindre ça. Donc on a tout simplement lu tous les papiers scientifiques qui avaient été écrits sur l'impact de la forme du verre sur la dégustation. Et il y en a eu assez peu. On a fait une note de synthèse avec ça et on a été voir une cinquantaine de vignerons pour savoir un peu quel verre ils utilisaient et discuter de l'utilisation du verre. Parce qu'on se dit, bah, les meilleurs vignerons, s'ils font les meilleurs vins, forcément, ils ont déjà un peu étudié la question du verre.
Ils ont un avis là-dessus.
Voilà, on est en 2017, c'est quand même des pros, quoi. Et on a été parfois surpris, mais ça nous a permis, en fait, en alliant le côté scientifique et le côté historique des propriétés, de créer 7 modèles de verres. Donc là, on reviendra peut-être sur le côté production, mais quand vous allez voir une usine et vous lui dites on va créer 7 modèles de verres, donc il y a 7 moules, va falloir former vos gars à souffler pour 7 verres. Et finalement, on va en commercialiser que 2. Et en plus, il faut nous faire 30 jours de paiement. je peux vous dire que la relation, elle commence de façon assez fraîche.
Et il vous a fallu combien de temps pour créer les premiers verres, du coup ?
Pour créer les prototypes, à partir de juin, on avait déjà les prototypes. La force de l'entrepreneuriat au début, c'est que vous allez très vite. Vous êtes une microstructure, vous avez une motivation de dingue. Donc tout va très vite.
Oui, puis la meilleure taille de l'entreprise, c'est l'individu. L'individu est une entreprise autogérée, créative, etc.
Ouais, alors tout seul, on va très vite. À deux, on va plus loin. Hein.
C'est... Sur la vitesse.
Sur la vitesse. Ouais.
Quand tu dis 7 pour n'en faire que 2, tu peux un peu clarifier ça ?
Ouais, bien sûr. Alors on a été accompagné par AgroSup Dijon, qui nous a un peu accompagné sur le process scientifique, parce que nous, on n'a pas des formations de scientifiques. Et qui nous ont expliqué un peu un process qu'on pouvait établir, donc qui était de dessiner ces 7 verres avec des caractéristiques différentes, qu'on a fait tester sur 6 vins volontairement contrastés sur le plan sensoriel, assez représentatifs de typicité sensorielle, et qui ont été testés via un test sensoriel, du coup, de dégustation. Donc chaque dégustateur avait en face de lui les 7 verres sur lesquels il a testé les 6 vins dans des ordres de dégustation différents de vin, dans des ordres de dégustation de verres différents pour enlever tous les biais statistiques, même s'il y a forcément des biais statistiques dans une étude. Et après, on a fait une analyse grâce à AgroSup Dijon et on a gardé, il nous semblait cohérent au vu des résultats de ne garder que les 2 verres les plus précis, parce que déjà le verre universel sur 5 des 6 vins, il remportait la notion de précision, et l'esthète pour lui était quand même, dans lequel on est en train de boire, était plus performant dans les vins puissants et tanniques.
Alors, donc c'est un verre pour les blancs, un verre pour les rouges.
Non, c'est encore une fois un peu plus complexe que ça. C'est vraiment des typicités sensorielles. Vous pouvez avoir des blancs un peu massifs parfois. Moi, je pense à certaines maisons champenoises qui font des champagnes massifs excellents, qui vont mieux dans l'esthète, parce que ça apporte un peu de fraîcheur. Voilà, c'est vraiment... chaque propriété doit trouver son verre.
En cela, vous êtes un petit peu en rupture, en décalage par rapport à l'offre classique. Enfin, je ne la connais pas par cœur, hein, l'offre des concurrents, mais j'ai en tête qu'il y a... dans les gammes des concurrents, un verre pour le Bourgogne, un verre pour l'Alsace, un verre pour le Champagne, un verre pour les bulles, un verre pour les types de vins. Donc
ouais,
vous êtes un
sûr.
Petit peu en
c'est,
décalage
c'est,
par rapport à ça.
C'est une vraie force auprès des propriétés viticoles et auprès des professionnels, parce qu'on a un message qui est clair, on est des passionnés de vin, on colle à ça quand on parle de typicité sensorielle à une propriété viticole ou à un sommelier ou à un caviste, il va comprendre. Pour un particulier, et on comprend pourquoi ces grandes marques en fait ont simplifié le message avec verre à vin blanc, verre à vin rouge, pour des particuliers c'est souvent plus difficile à comprendre. Le verre c'est compliqué, je vous ai envoyé une note de synthèse, vous avez vu c'est quand même hyper technique. Et nous c'est une difficulté pour nous qui sommes déjà pas des grands communicants, d'arriver à faire passer des messages techniques comme ça.
Sachant que du coup, c'est pour si on voulait aller à une simplification technique, c'est quand même le rapport entre la largeur du buvant et la largeur des épaules, c'est ça à peu près ?
Exactement, alors il y a plusieurs variables. La variable la plus importante, c'est vraiment le ratio. Donc le ratio, c'est la division en fait entre le diamètre maximum de votre verre, donc la partie la plus large du verre, et le diamètre d'ouverture, qui est en théorie la partie la plus étroite du verre. Et le jeu est en fait de jouer avec la deuxième variable, qui est la hauteur du verre, de trouver différentes équations entre, c'est comme un algorithme, on va dire, entre guillemets, entre votre ratio et votre hauteur de verre. Et après, chaque marque va trouver ce qu'elle considère être l'équilibre. Et pour nous, la précision d'un verre, ce qui est très important, au-delà d'être un messager, c'est l'adéquation entre le nez et la bouche. Donc, le nez doit être précis comme la bouche, ce qui n'est pas vrai dans certains verres où il y a parfois un nez trop fort, une bouche plate, voilà.
Alors, c'est pas un hasard, j'allais dire, heureux hasard, c'est pas un hasard du tout. On a évidemment un vin dans ces verres sublimes. Je répète un truc, c'est qu'il vraiment il pèse un gramme. Quoi. On a vraiment l'impression
La première caractéristique de ces verres-là, c'est qu'ils sont d'une légèreté absolue. Quoi. On a l'impression de prendre une plume dans les mains.
Est-ce que ça participe, la finesse du verre participe aussi de sa précision ?
Bien sûr. Sur la précision, je ne sais pas, mais la notion de confort est hyper importante sur la dégustation. C'est des verres qui sont 100% réalisés à la main et qui sont contrôlés de façon unitaire parce que nous ne produisons pas, nous avons un sous-traitant, donc ça c'est aussi important, d'ailleurs comme toutes les marques.
Où sont-ils fabriqués ?
Ah, t'es pas souffleur alors ?
Non, je suis pas souffleur.
Alors Où sont-ils fabriqués ces verres alors ?
En Bohême. Donc c'est une forêt. Alors, quand on parle de terroir, là, je pense qu'il y a un vrai terroir verrier qui a été préservé.
En République tchèque donc ?
Ouais, alors c'est une forêt qui est entre la République tchèque et la Slovaquie. Vous avez plusieurs usines, toutes ne sont pas capables de produire cette qualité de verre. D'où la difficulté du départ pour nous, jeunes entrepreneurs avec pas d'argent et pas de projet et pas d'investisseurs, d'aller motiver une usine sur un projet.
Bonjour,
hyper
on s'est
complexe.
Perdu dans la forêt. Ouais, est-ce que vous pouvez faire deux verres pour nous?
On a deux bouteilles avec nous.
Ça a été un délire. Parfois, les réunions étaient parfois un peu tendues avec certaines usines. Oui.
Donc oui, enfin, juste pour revenir sur la finesse, quand on boit du vin, il y a une idée du verre fin en bouche. Quand on boit de la bière, il y a une idée du verre épais en bouche. Donc déjà, la finesse liée à ce qu'on boit est importante. Donc la notion de finesse, je pense qu'elle est intrinsèquement liée au vin. Alors moi, juste une question, si je me permets. C'est hyper léger, donc ça met en valeur le vin. On a l'impression de porter que le vin, en fait. Et c'est assez poétique.
Oui, c'est vrai, il y a de ça. Ouais.
C'est assez poétique, cette chose-là. Par contre, en termes de solidité, moi, j'ai juste peur de les laver, en fait, ces verres-là.
Et pour les professionnels,
j'ai très peur.
Alors, clairement, j'ai peur de teinter, tu sais, de faire chin-chin. Tu fais chin-chin.
Non. Clairement, il ne faut pas jouer au tennis avec ces verres. Ça, c'est une certitude. Vous verrez sur YouTube, vous tapez Sidonios, vous avez une vidéo qui explique comment nettoyer vos verres. Et si vous avez la main, il n'y a aucun problème. Alors après, bien sûr, c'est hyper fragile. Ça s'adresse à des personnes assez délicates, clairement. Mais comme les vins qu'on boit...
C'est la question, hein. Moi, je sais pas...
Et après, les professionnels, généralement, sont équipés d'un lave-verre qui permet de ne pas avoir à rincer derrière.
Alors, c'est des verres, on a mis du vin dedans. C'est le vin que tu nous as apporté, Antoine. On commence avec le tien, ensuite on boira un verre qu'a apporté Laurent. Un verre, un vin. On va faire cette confusion
vous
toute l'émission, j'ai l'impression.
Un peu parti sur la confusion des genres.
Il y a fusion du contenu et du contenu.
Verre-vin. Antoine, voilà. Quel est ce vin ?
Bon, moi, je ne suis pas un grand technicien de vin, donc je vais en parler de façon très simple. Donc, c'est Château Marceau 2014, qui est un franc-côte de Bordeaux. Cépage Merlot. Il faut aller à Marceau pour vraiment comprendre Marceau. C'est vraiment un paysage qui est magnifique, qui est en coteaux et sur un terroir d'argile très profonde, ce qui donne une certaine fraîcheur à ce vin. Alors, qui là est un poil trop chaud, ce qui fait que on n'a pas vraiment la fraîcheur parfaite pour le boire. Mais voilà, moi j'ai un coup de cœur et pour le vin et pour les propriétaires, parce que c'est des gens très simples qui sont toujours dans la réflexion. Et pour moi, c'est un exemple pur de ce que Bordeaux peut apporter à moins de 20 euros. Voilà, moi, je me régale quand je bois ça et j'aimerais en boire plus dans les restaurants.
Ouais, c'est un domaine qui fait 12 hectares, c'est un domaine familial.
C'est ça, oui.
Donc 12 hectares, ce n'est pas beaucoup à Bordeaux. Et ils sont proches de Saint-Émilion.
Oui, alors c'est ils sont dans un vignoble qui est tout à l'est de Bordeaux. Hein, c'est extrémité.
C'est proche de Saint-Émilion.
Exactement.
Ouais. Ils sont sur des hauteurs en haute croupe, ce qui en général est plutôt bon signe. Et je crois qu'en dehors du Château Marceau, ils travaillent sur un enclos qui s'appelle le Pontis, qu'ils ont récemment replanté.
Ah, ça, je suis pas au courant.
Et donc voilà, on travaille en précision et en famille. Voilà.
Clairement. Et...
Plutôt des artisans, d'ailleurs, de Bordeaux.
Oui, c'est des artisans. Comme il y en a de plus en plus, il ne faut pas le sous-estimer. Et pour moi, c'est vraiment un exemple d'un prix plaisir qui est top. Quoi.
Qu'est-ce que vous diriez de ce vin, Laurent, ce Château Marceau ? On a déjà eu l'occasion de parler de Bordeaux et précisément de cette dynamique à Bordeaux, en dehors des grands crus classés, des vignerons qui font des vins d'auteur.
Oui, alors, comme on est rive droite, effectivement, il y a quand même plus de domaines aujourd'hui qui sont dans cette démarche de travailler de façon peut-être plus artisanale que malheureusement le Médoc. Donc c'est là qu'on trouve un peu plus facilement des pépites sur les vins de Bordeaux. Là on a un joli fruit, on sent qu'il y a effectivement un élevage bois qui est qui est présent et qui va probablement se fondre avec le temps et qui mérite encore de se fondre.
Le vin n'a que 5 ans, il est 2014 je crois.
Ce qui est jeune pour Bordeaux et qui est un millésime très compliqué à Bordeaux, surtout sur cette partie géographique de Bordeaux.
Et là le verre, bon bah évidemment hein, c'est un vrai régal que déguster un vin avec ce type de verre.
Qu'est-ce que ça apporte Laurent, toi qui sers tous les jours des clients, concrètement
dans des verres pourris parler...
essaye de mettre des mots là-dessus. Ils sont excellents les verres, c'est vrai que c'est pas des verres chers que cela, on va
évidemment
dire.
Non, je n'avais pas les moyens d'investir dans des Sidonios au wine therapy, mais j'ai choisi un verre qui me semblait être suffisamment universel pour pouvoir proposer tous mes vins dedans.
On cherche un compromis dans ce cas-là.
En ayant effectivement un buvant qui était quand même suffisamment fin, parce que c'est, pour moi c'est vraiment une des clés du plaisir qu'on prend quand on boit du vin, de ne pas sentir le verre finalement. Et là, c'est remarquable, là. C'est juste du bonheur. Je rêve de pouvoir proposer ça à mes clients. La seule chose, c'est qu'on casse un nombre de verres assez important, que ce soit les clients ou nous. Je n'ai pas investi dans un lave-verre avec osmoseur au moment où je me suis installé, parce qu'effectivement, c'est un des moyens d'avoir des verres peut-être de meilleure qualité ou plus fragiles.
Avec osmoseur ?
Oui, c'est un système.
C'est de l'anglais ou non ?
L'osmoseur te permet, en fait, bon, c'est grosso modo, c'est deux fois le prix du lave-verre.
D'accord.
La seule chose, c'est que.
Qui n'est déjà pas donné.
Qui n'est déjà pas un truc que tu as envie d'acheter tous les jours. Et la garantie, c'est de ne pas avoir finalement à manipuler les verres. Tu les sors, tu les mets directement, tu peux directement les servir.
C'est un verre de compète.
Et donc, ça a un avantage, c'est qu'effectivement, il y a moins de risque de se blesser, parce que bon, bah, un des problèmes quand même du verre, hein, c'est que c'est dangereux. Donc, il faut être très prudent dans la manipulation, et ce type de verre, ça serait un rêve que de proposer ça, mais il faudrait que ce soit un budget sans fin, enfin qu'on ait un budget.
À propos de clientèle, tu l'as dit, tu l'as évoqué, trois débouchés cibles.
C'est comme ça que nous on les segmente.
Cavistes et bar à vin. Donc voilà, Laurent et Louise en sont des exemples avec ce que vient d'évoquer Laurent. C'est difficile pour des cavistes intermédiaires d'investir autant dans des verres parce que c'est des vins qui sont relativement chers. Des verres, j'ai dit des vins ? Non, mais c'est pas possible. Bon. L'autre marché, c'est donc les domaines. Donc là, c'est là où vous avez fait votre entrée avec des grands domaines qui vous ont référencé tout de suite. Donc, satisfaction d'avoir, face à des concurrents déjà bien installés, d'être choisi par des professionnels et des vignerons qui, par définition, choisissent le verre qui met le mieux en valeur leur vin.
Double satisfaction dans le sens où il y a une vraie dégustation comparative. On n'est pas, nous, à vouloir prétendre qu'on est les meilleurs. Mais le fait que des professionnels et des grandes propriétés viticoles nous cooptent par une dégustation comparative, alors que la marque, clairement, personne ne la connaissait, ça a été vraiment très fort pour nous.
Et enfin, le troisième marché, ce sont les particuliers. Alors, ça représente... quelles sont les grandes échelles entre les trois ?
Alors, encore une fois, on n'a qu'un an et demi de marché derrière nous, donc c'est notre échelle à nous, c'est pas l'échelle du verre. Mais grosso modo, le particulier... via des revendeurs type chef-d'œuvre que vous avez interviewé, c'est entre 12 et 15% de notre chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas marginal non plus.
D'accord. Donc, il y a des amateurs qui...
L'avantage, c'est qu'il y a des paquets de deux verres qui font que vous pouvez très bien investir dans deux verres et ça vous reste un budget qui est quand même correct.
Et juste une question. Pourquoi Sidonios ? Pourquoi ce nom-là ?
Eh ben, c'est l'anagramme de Dionysos. Tout simplement parce que voilà, on est des fous de vin, des amoureux
Bacchus,
de vin.
Autrement,
rien à voir avec Sidonie.
Et non, pas du tout. Et encore une fois, on est au service du vin.
Et ce logo SY qu'on retrouve gravé sur le pied du verre.
Exactement.
Et moi, j'avais une question parce que dans votre site, vous dites d'effacer le verre au profil du vin, ce que je trouve. C'est une belle forme, mais elle vous est venue d'où, cette idée-là, en fait ?
Honnêtement, je ne saurais pas vous dire, mais quand vous entreprenez au tout début, vous parlez beaucoup de votre projet, et il faut beaucoup parler de votre projet, ça vous évite pas mal d'erreurs. Et On a quand même beaucoup rencontré des vignerons, comme je dis, dans notre process participatif de départ. Et on a senti, c'est, déjà nous, ça nous colle à nous en termes de participer, enfin, en termes d'identité avec mon associé, de ne pas mettre notre produit en avant de la bouteille. Et surtout, on a ressenti que c'était une vraie demande de la part des vignerons. Donc après, on est les entrepreneurs basiques. Quand on sent une demande, on s'adapte un peu à la demande. Si en plus, elle nous colle à nous personnellement, c'est parfait.
Parce que du coup, le rendu est très réussi.
Il y a aussi une dimension historique, parce qu'avant, on faisait des verres qui étaient beaucoup plus ouvragés. Là, on a vraiment un verre qui est d'une simplicité dans sa forme, alors qui est très élégant dans sa forme. Hein. On a une belle
c'est
rondeur et tout ça.
Globalement, c'est la forme tulipe hein, qui reste la forme, a priori, alors, idoine.
Effectivement, c'est,
ou tronquer,
c'est aussi une difficulté pour nous de dire qu'il y a tellement de boulot en termes de science, en termes de lecture de papier, en termes de... Voilà, quand je dis mobiliser 100 professionnels du monde du grand vin sur 7 verres, sur 6 vins volontairement contrastés sur le plan sensoriel, c'est un boulot logistique qui est énorme. Ça nous a pris quasi un an et demi. Et vous ressortez effectivement avec des verres qui ont une forme assez classique. Le message est parfois difficile à faire passer.
Ah, tout ça pour ça.
Exactement. Alors, certaines propriétés, quand on a été les voir, on vend l'histoire et puis ils nous disent « Bah oui, bon, c'est un verre à Bordeaux, quoi. » Bah non, c'est un peu plus que ça. Goûtez, vous verrez. Et puis, ils ont goûté et pour la majorité, ça s'est bien passé.
Non, mais après, en 10 000 ans de pratique du vin, on peut apprendre des trucs. On peut apprendre 2-3 fois d'Antoine. Donc, c'est pas débile que la forme. Après, on retrouve un peu la forme. On revient aux œufs dans les élevages.
Oui, bien sûr. Ouais.
On n'est pas très, très loin de l'œuf, hein, dans les œufs béton. Donc, je sais pas, il y a peut-être une... Alors,
c'est un sport
y a de... Il n'y a pas de nombre d'or, là, pour
on,
le coup.
On casse pas les codes. On n'est pas un market disrupteur. On n'est pas une start-up. Mais par contre, on apporte une précision un peu plus importante. Et dans ce sport de la précision dans lequel se lancent tous les vignerons, on est clairement...
Oui, puis voilà, dans fois, le renouveau, c'est souvent le retour à l'essentiel.
Exactement.
Parce qu'on l'a perdu. Donc je pense que c'est une forme de retour à l'essentiel dans les purs. Et encore une fois, là, pour le coup, le vin disparaît au profit du vin. Et de même dans l'aspect physique, au sens poids du terme. Donc c'est ça qui est bien.
Je ne corrigerai pas. C'est évidemment le verre qui disparaît au service du vin.
Le verre.
Alors, on va goûter un deuxième vin et... C'est un vin. Bah, Laurent, tu vas nous le présenter. On aime bien. On a passé un bon moment.
Je vous le présente ou on en parle. Enfin, ou on le déguste d'abord.
Eh bien, on peut le déguster. Pendant ce temps, je vous parle. on a passé un bon moment avec Jérôme Gagnès à déguster des vins moelleux. Et voilà, on restera des défenseurs des vins moelleux en fin de dégustation. Et notamment avec un superbe moelleux au chocolat. Et quel est donc ce vin?
Donc effectivement, ma grosse déception, c'était de ne pas être parmi vous le mois dernier pour les vins doux. Donc ben voilà, j'ai pris un peu l'initiative d'apporter un vin qui se prête particulièrement à l'exercice d'accompagner le gâteau au chocolat que j'ai fait également, le fondant. On est sur un vin doux naturel, donc vous avez parlé de Porto. Essentiellement, hein, lorsque vous aviez Gagnès avec vous. Là, on est sur la version française du vin doux naturel. On est sur un Mory Grenat. Donc, on est dans le Roussillon, Pyrénées-Orientales. On travaille sur un cépage qui est le Grenache. Le domaine s'appelle Moudi-Glisa. Le vigneron est donc Dimitri Glipa. Il fait des vins que j'aime beaucoup. Le Mory Grenat a l'avantage d'être quelque chose de très fruité. Enfin, je pense que si on... Enfin, je sais pas, je vous laisse peut-être vous exprimer sur le vin plutôt que de le décrire moi-même parce que...
Moi, j'adore ça. Ça termine tellement bien une dégustation. Antoine, tu aimes ce genre de vin ?
Ouais, j'aime beaucoup. Alors, grâce à Chef d'œuvre, je sors un peu de mes classiques et là, clairement, là, je sors de mes classiques et c'est une belle découverte. Merci.
Est-ce que les vins ont été aussi pensés, enfin la dimension vin moelleux est un peu sucrée, vous l'avez aussi intégré, parce qu'il y a aussi les pétillants, il y a les rouges puissants, il y a les rouges légers, les blancs secs ou moelleux.
Alors en bon bordelais on avait mis un sauterne, mais la difficulté de toute étude statistique c'est que vous êtes obligé de limiter le nombre de facteurs pour limiter le biais.
Il faut bloquer quelques paramètres.
Exactement.
Donc il faudra faire d'autres verres pour des,
non, parce
pour
que,
des mousseux alors, ou des moelleux.
Honnêtement il faudrait faire un verre par vigneron, un verre par millésime, un verre par sol, enfin, on pourrait faire autant de verres, après il y a
c'est
des problématiques.
Idée. C'est une idée.
C'est une idée, ouais.
Pourquoi pas en bohème.
Je te laisse porter le projet. Hein. donc voilà, nous pour l'instant on se limite à cette offre de deux verres qui fonctionne bien comme ça. Et effectivement, toujours il y a obligé de faire des limitations, que ce soit en termes de production, Mais voilà, on est au tout début de l'aventure. Encore une fois, ça fait qu'un an et demi qu'on commercialise. Et on est prêt à développer plein d'autres produits.
Après, effectivement, une relation spécifique à la bulle hein, dans le verre, où théoriquement, effectivement, le temps que la bulle se crée et monte de manière homogène.
C'est un aspect hyper important.
Il y a le Thibaut Ligébel, enfin, c'est pas Thibaut, c'est le Ligébeler qui travaille beaucoup sur ces aspects-là en Champagne. Et effectivement, la taille et donc la forme en flûte apporte quand même un certain nombre de choses. Après, je ne sais pas si l'universel est là pour traiter la bulle.
Non, mais les verriers ont historiquement fait l'erreur de lire de façon trop stricte les travaux de Ligébeler parce qu'ils ont eu comme volonté de stimuler la bulle. Ce qui est, à notre sens, une erreur énorme et ce qui a donné les coupettes qui sont très étroites, très hautes, qui stimulent la bulle. Donc génial, sauf que quand vous mettez votre nez,
il est coincé dedans et on peut plus sortir.
On ne sent rien.
Il y a déjà ça, mais
on ne sent rien.
Vous prenez un shot de bulle dans le nez et c'est quand même pas très agréable. Et votre bouche n'est pas prête.
Donc l'universel serait-il mieux adapté au champagne que
stimuler le système gustatif. Et votre bouche n'est pas prête. Et donc le champagne, en plus avec cette appellation qui est en évolution énorme depuis quelques années, avec une offre de vin, enfin c'est quand même pour moi l'appellation, une des appellations la plus excitante en ce moment. Moi, j'ai peut-être quelques années de retard. Mais voilà, il faut un verre adapté. Et nous, l'universel, clairement, est un... on performe bien. Alors, toujours ce mot performer qui est pas très bon. Mais voilà, c'est un verre qu'on
vous
voit énormément
bon
en champagne.
Par rapport,
exactement. On a plus de 130 vignerons en clients en champagne.
Et donc, est-ce qu'il y a une particularité du verre là, pour allier cette légèreté et cette relative solidité quand même, enfin cette solidité, est-ce qu'il y a c'est un verre particulier ou c'est juste la technique de soufflage qui
vous
permet
la matière?
Ouais.
Non, la matière elle est imposée par l'usine, c'est du cristal sans plomb qui vous permet
alors ce qui est contraire parce que le
cristal,
historiquement le verre de Bohème, la particularité c'est qu'il était fait en oxyde de plomb,
alors, bien
sûr. C'était pas très éco-friendly, mais bon ça remonte à 4 siècles en même temps
et c'était pas super sympa pour les souffleurs aussi.
Exactement, j'imagine, ouais.
Exactement, donc là ils sont passés sur des matières en cristal sans plomb qui déjà sont plus sympas pour les souffleurs, mais qui permettent aussi de passer les verres en machine, ce qui est quand même un argument pour présenter ça à un particulier qui est non négligeable.
D'accord, donc la matière, c'est du cristal de Bohème sans plomb maintenant. Quoi.
Exactement.
Quelles sont les prochaines
Oui, Laurent. Question, pardon.
Oui, bien sûr.
Récemment, j'étais en Alsace, et je pense qu'on a tous en tête la forme du verre traditionnel de vin alsacien.
Avec des couleurs.
Avec des couleurs. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, est-ce que tu peux m'expliquer d'où vient cette tradition du verre qui est absolument contraire à toutes les règles
moche,
de base du plaisir de la dégustation du vin. Moi, j'aimerais comprendre parce que ils continuent de servir leur vin dans ces verres et j'arrive pas à comprendre sur quelle base cette forme a été pensée.
Honnêtement, sur la partie
Joker,
ouais, gros Joker, mais pour nous sur cette année, c'est vraiment une cible importante.
L'Alsace
est une cible importante, déjà parce qu'on a trouvé l'agent qui va bien, donc c'est quand même déjà un élément important.
Visiblement, il y a un marché.
Il y a un marché.
Ça fait des siècles qu'ils se tapent des verres qui ne font pas, pas l'affaire.
C'est des super vins qui sont de plus en plus mis en avant
super
sur les cartes. Enfin, je veux dire,
pas assez encore,
voilà,
je trouve.
Mais c'est pas normal qu'il n'y ait pas des verres.
On les défend ici.
Voilà. Ils n'ont pas de super verres.
On va s'en occuper. J'espère revenir dans un an en me disant on a performé en Alsace.
Pour un Rémois, c'est pas très loin.
Oui, c'est vrai.
Tu es de Reims au départ. Donc Champagne.
Voilà. On est tous les deux de Reims. On n'est pas liés au monde du vin. Mais voilà, on est tous les deux de passionnés. Et forcément, on a une culture champenoise importante.
On a parlé de la légèreté, on a parlé de la finesse. Est-ce qu'il y a une bonne contenance du verre? Alors apparemment, par exemple, il y a une espèce de norme qui est le verre Inao.
Il y avait une norme.
Il y avait une norme. Par contre, on lui reproche une petite contenance. Globalement, un bon rapport. Je crois qu'il a à peu près le même rapport que votre universel, le Verinao. Par contre, on lui reproche une petite contenance. Est-ce qu'il y a une contenance idéale, idoine, pour les vins et les verres de vin?
Alors, encore une fois, on n'a pas fait les tests scientifiques, mais très clairement, c'est encore un jeu entre la contenance, donc la hauteur, et votre ratio. Si vous trouvez le juste équilibre en mettant un litre de contenance et que vous avez le bon ratio et la bonne hauteur et que ça vous donne un bon équilibre entre le nez et la bouche, bah vous avez le verre très bien. Donc c'est vraiment
un... qu'on prend à deux mains, quoi.
Ouais, exactement.
C'est un vase.
Ouais, debout.
Mais tout est un jeu d'équilibre entre les paramètres pour arriver à être un bon rétributeur du message du vigneron.
Et donc là, on est à un tiers de litre, hein, c'est ça, sur les contenances.
On a 360 millilitres, ouais. Un peu plus qu'un tiers.
Il y a une dimension culturelle, parce que je crois que vous faites quand même une partie du chiffre à l'export. Il y a une dimension culturelle aussi. J'ai en tête, il me semble que c'est aux États-Unis, je crois, on sert des vins qui sont pleins, qui sont facilement pleins à ras-bord, ce qui choque beaucoup les dégustateurs européens. Est-ce qu'il y a un rapport comme ça au verre qui
Non, ils ne servent pas des ballons.
Qui varie.
Quelqu'un
m'a dit ça, c'est hallucinant. On nous sert des verres jusqu'en haut.
C'est très intéressant. Et d'ailleurs, les États-Unis sont un. Pour moi, le marché sur lequel nous sommes pas, et c'est une hérésie parce que c'est le plus gros marché consommateur de verre soufflé. Donc, c'est une grosse faillite de notre part de ne pas être présent sur le marché américain. Clairement, les Américains demandent des verres un peu oversized, comme ils disent, et ils ont besoin de verres impressionnants. C'est vraiment quelque chose de. Donc, il y a une dimension culturelle.
Le côté skyscrapers, quoi. Le côté.
Exactement.
Je veux un gros verre qui ressemble à un building. Quoi.
Tout est plus grand aux États-Unis.
Je paye, donc je veux que ça se voit. C'est un peu cette notion.
Un très grand verre. Merci Antoine Schwartz. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Sidonios pour la suite? Quels sont les projets, les choses qui sont en cours?
Plein de bonnes choses on peut souhaiter à Sidonios. On a plein de projets en cours, on peut pas encore trop en parler. On vous fera passer des messages quand tout ça sera prêt.
Et on relève.
Voilà. Chaque projet, c'est un an et demi de préparation, donc ça prend du temps.
Il y a des verres et il y a également des carafes.
Voilà, moi c'est ce que je voulais rajouter parce qu'effectivement, moi je suis très séduit aussi par les carafes que Sidonios propose. Et donc il faut en parler.
Quelles sont les qualités d'une carafe pour bien décanter?
Bon, déjà, la carafe, elle doit être jolie. C'est un élément très important. Pour nous, elle doit être légère pour suivre un peu la ligne. Et on s'est un peu amusé sur le design parce qu'on peut se permettre un peu plus de choses sur les carafes que sur les verres, qui est un monde, on va dire, un peu plus strict. On a pris le dessin de nos deux verres qu'on a retourné, qu'on a un peu adapté pour que ça soit sympa. Mais du coup, on l'a appelé la collection Reverse puisqu'elle reprend le dessin de nos verres, mais à l'envers, en un peu adapté. Après il y a plein de qualités. La carafe pour les vins puissants et tanniques, forcément elle doit avoir une surface d'aération qui est importante, et pour les vins plus vieux, pour les vins blancs, pour certains vins blancs, pas tous, et pour certains champagnes, une surface de contact qui doit être un peu plus légère. Et le petit plus, c'est que notre carafe universelle passe au frigo, ce qui est quand même pas mal quand le frigo est propre.
Et est-ce que vous avez pensé au maintien de la carafe pour le sommelier qui va carafer vos vins?
Je te laisserai tester, pardon. Mais oui, normalement, ça marche bien. Oui.
Qu'est-ce que tu appelles le maintien de la carafe?
Quand on doit carafer, décanter le vin devant les gens et qu'on doit on le prend par le cul, si je peux me permettre.
Oui, tu peux te permettre, oui. Ah, qu'on doit la porter, d'accord.
Voilà. Du coup, il y a des carafes qui sont plus ou moins pratiques.
D'accord.
Suivant voilà, la taille des mains de chacun et la taille de la carafe, surtout.
Des petites sommelières avec des petites mains. Est-ce qu'elles peuvent porter
si en plus de s'adapter.
Vous mettez des scratchs sur votre carafe, c'est assez pratique.
Non, mais si en plus de s'adapter à tous les propriétaires, il faut s'adapter à tous les sommeliers, là, on est mal barré.
Non, mais la prise en main,
c'est un élément essentiel et on y a pensé.
C'est pas compliqué.
Ouais,
la carafe, on y pense pas.
De ce qu'on voit, elles sont quand même très facilement manipulables. Elles sont très. Je trouve leur taille est très réduite. Hein. On a une taille qui est.
Ils sont pas hyper évasés. On n'est pas dans l'hyper oxygénation.
Qui est très.
C'est
très
carafe classique. Hein.
Mm-hmm. Oui, c'est vrai qu'il y a des carafes qui sont très larges à la base. Là, c'est pas trop le cas.
C'est pratique
plutôt
à servir. Tu prends par le goulot pour servir les trois dernières gouttes. Tu rames comme un rameur.
Il faut les mettre à la verticale.
C'est ça.
Avec les risques que ça représente.
Tout un monde que c'est verre à vin. Moi, j'ai envie de dire bravo, franchement, parce que c'est quand même assez culotté, assez courageux.
Merci beaucoup, on a encore plein de challenges. Et,
se lancer sur un marché comme ça.
On se dira bravo, nous, quand on aura atteint ces challenges.
Mais là, pour l'instant, voilà, ça progresse.
Le business plan est suivi, là, c'est bon ou...
Ouais, alors nous, moi, je suis toujours un peu ambitieux. Non, je sais pas. Hein. Je suis toujours un peu ambitieux sur les business plans, mais trop ambitieux.
On l'est tous.
C'est le principe d'entrepreneur.
Mais oui, jusque-là, on est dans les cordes. On vient d'embaucher un commercial en décembre, ce qui est pour nous un élément hyper important. Parce qu'il y a une notion qui est importante et qui est rigolote et qui nous met en confiance, c'est qu'on a très peu fait de démarchage commercial. C'est des gens qui sont venus nous voir parce que nos verres étaient présents à tel endroit. Ah, j'ai vu vos verres, je connaissais pas votre marque. Est-ce que c'est déjà distribué dans mon pays ou pas? Et puis là, après, il y a forcément des négociations qui débutent. Mais voilà, très peu de démarchage commercial. Là, on commence réellement à en faire. Plus un réseau d'agents qui se met en place. Donc, tout ça est plutôt assez positif.
Bah, bravo.
Bravo, ouais.
Merci. Ouais.
Merci pour ces verres et merci d'avoir apporté les verres pour cette soirée parce qu'on a passé une soirée dégustation assez agréable. Et il est vrai, moi j'avoue que je suis complètement débutant dans ces verres voilà, de sommelier, ce côté hyper léger, c'est assez bluffant d'ailleurs. Et ça, c'est vrai que ça donne un plaisir, c'est un vrai plaisir à tenir, à boire. Ça a du style, ouais, mais tout ça, ça forme un tout en fait. C'est la précision gustative et le style.
On ne tient pas justement, on ne tient ces verres par le pied. Parce que ça, c'est un truc que je vois trop souvent.
Par la tige, mais pas par le...
On tient les verres par le pied et on ne met pas sa main en contact avec le vin, justement, qui risque de réchauffer très rapidement le vin.
Puis c'est tellement élégant de les tenir par le pied comme ça.
Bien entendu.
Enfin, bon, moi, je préfère les tenir avec la main quand même parce que...
Tenir avec le pied, oui.
Tu me rappelles une maxime célèbre d'un humoriste complètement oublié qui disait qu'il est plus facile... de se laver les dents dans un verre à pied que de se laver les pieds dans un verre à dents. Voilà, je vais terminer là-dessus. Merci beaucoup Antoine Schwartz.
Avec grand plaisir, merci de votre invitation.
Merci à tous et à toutes de nous écouter. Suivez-nous, laterraboire.com, les différents réseaux. Merci Laurent Delceau, merci Louise Bouet, merci Patrice Defay d'avoir été nos chroniqueurs d'un soir. Merci au public, toujours nombreux, d'être venus écouter cet enregistrement de La Terre à Boire. Je vous donne rendez-vous pour les Parisiens ou ceux qui passeraient par Paris le jeudi 20 février au Wine Therapy Paris 9e. On va boire des vins, on va parler de vin et on va comme ça grenouiller, réseauter autour des podcasts œnophiles. Et voilà, on vous souhaite de bonnes dégustations. Encore une fois, une très belle année 2020. À bientôt. Bye bye.
Ciao, ciao.
Bye bye.
Bye bye.